Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Coucou, c'est Mimi.
Coucou, c'est Fab.
Et bienvenue dans
The Boys Club.
Ah, cette fois-ci, j'espérais que tu crierais pas.
Non, j'ai hésité sur le The Boys. Et puis après, j'ai fait OK, faut quand même.
Let's go. Oui. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mercredi sur deux, avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, nous sommes avec Mathias Jambon-Puyer. Bonjour Mathias.
Bonjour Myriam.
Oh là.
Je suis un peu intimidé.
Alors que quand même, on peut le dire pour les auditeurs et auditrices, n'est-ce pas, pour être honnête, nous sommes amis, on se connaît depuis
Disclaimer.
Longtemps.
Disclaimer. C'est vrai.
Tu connais Fab depuis longtemps aussi.
Oui.
Tu es ici à la maison. Détends-toi, tout va bien se passer.
J'adore le canapé. Parce que je pensais que c'était un podcast de table et chaises, et c'était un podcast canapé, sachez-le.
C'était un podcast de canapé, et t'es très... Alors c'est intéressant la position des invités, il y en a qui sont tout au fond avec des coussins, genre ils s'enterrent, toi t'as une fesse sur le canapé et une fesse prête à partir, genre vous me dites j'y vais, y a pas de soucis.
Ça va bientôt être
l'heure. Je m'en vais, je pars. Mais tu vas te mettre à l'aise, ça va venir. Mathias, tu es auteur, entre autres. Et oui. Tu sors ton premier roman qui s'appelle Objet trouvé le 24 août aux éditions Anne Carrière.
C'est vrai.
J'ai tout bien dit. Yes.
Tout est nickel.
Bravo.
Et merci de venir dans The Boys Club.
Merci pour l'invite.
On va commencer avec la première question. Je crois que savoir que tu y as pas mal réfléchi. Parce que tu es un peu contrôle fric.
Quel enfer. Allons-y.
Ça veut dire quoi pour toi être un homme ?
Alors. C'est terrible. L'avantage d'arriver genre 25e sur un podcast, c'est qu'on peut en écouter avant et réfléchir. Et en fait, vraiment, j'ai passé, je sais pas, 2-3 semaines et à chaque fois, ma réponse, elle changeait. C'est terrible. J'avais des vannes, j'avais des trucs super intello, j'avais des trucs à dérouler. Et donc, alors...
Déroule !
Je vais pas dérouler, juste... Je pense qu'il y a deux trucs qui me sont venus à force de cogiter au truc, c'est que ma réponse aurait été différente suivant l'âge auquel tu me l'aurais posé. À 6 ans, je t'aurais dit qu'être un homme, c'est aimer le foot. À 15 ans, je t'aurais dit qu'être un homme, c'est sortir avec des filles très belles. Et maintenant, je sais juste plus, en fait. Et je pense que c'est une question qui a de moins en moins de sens, en tout cas pour moi.
Pardon, on a demandé quel âge tu as ?
Non, j'allais
demander. Ah oui, c'est ça. J'allais
dire. Quel âge as-tu maintenant ?
Alors, j'ai 32 ans.
Et comment tu le vis ?
Bof.
Parce que c'est le seul âge que t'as pas dit dans ta liste. Maintenant, de nos jours.
De nos jours. Non, pour un tas de raisons absolument pas liées à mon genre, je me sens pas habité l'âge que je suis censé avoir. Je pense que ça reviendra. Il y a des moments où on se sent en phase avec l'âge qu'on a. Là, j'ai toujours l'impression d'être bloqué à 29 3 quarts, mais ça va sûrement me rattraper.
La grosse différence entre un homme de 29 3 quarts et un homme de 32 ans ?
C'est qu'il a 30.
C'est qu'il a 30.
C'est le cap ?
Non, c'est juste que j'ai passé les deux tiers de ma vie sur une trajectoire extrêmement directe, simple et traditionnelle qui m'allait très bien. Enfin, qui m'allait très bien, qui me convenait. Et maintenant, j'ai l'impression d'être en avance sur certaines choses et en retard sur certaines choses. Et par rapport à ce que j'attendais de ma propre vie, je ne sais plus exactement où j'en suis. Et je pense qu'à un moment, peut-être que les choses se remettront en place. Et je saurai.
Est-ce que tu peux décrypter cette phrase qui, pour vraiment, je pense, 90% des auditeurs qui ne te connaissent pas, ne veut rien dire?
C'est
quoi la trajectoire dont tu parlais qui t'allait très bien?
La trajectoire qui m'allait très bien, c'est que je suis né et j'ai grandi dans une famille nucléaire type un papa, une maman, deux enfants. Mes parents n'ont jamais divorcé. Que je sache, n'ont pas eu de problème de couple majeur. J'ai rencontré au lycée une fille dont je suis tombé très très amoureux. Et avec qui j'avais des projets d'appartement et d'enfants, et je me voyais reproduire le schéma familial dans la joie et l'allégresse, loin des complications inhérentes à toutes les autres possibilités qui existent. Et un jour, la mécanique s'est enrayée pour des raisons tout à fait légitimes et concrètes. On s'est retrouvé sur des trajectoires différentes. Et je me suis du coup retrouvé expulsé de ce que j'avais intégré comme le plan. Et parfois je sais où je vais, parfois je sais plus. En ce moment, je sais juste pas.
Mais du coup, en fait, tu t'es retrouvé expulsé du plan de suivre ta trajectoire avec cette fille.
Ouais.
Il y a d'autres filles.
Ah non, il y a d'autres filles, c'est pas ça la question. C'est, la question c'était cette espèce de côté tu restes avec ton high school crush et tu fais des enfants et c'est super. Et maintenant j'ai 30 ans et plus, paraît-il, selon la police. Et par exemple, si je rencontre, mettons, la nouvelle femme de ma vie avec qui, imaginons, tout se termine très bien, c'est quelqu'un qui n'aura pas été présente sur les 10 années d'avant, qui ne m'aura pas connue au lycée, qui n'aura pas vécu des moments de vie qui me sont très chers ou très durs, des moments familiaux aussi. Et donc, c'est une part de ma vie qui a été donnée à cette personne et que je ne pourrais pas donner à quelqu'un d'autre.
Et c'est un... C'est difficile pour toi de l'accepter aujourd'hui, de te dire que t'auras pas... Enfin, la personne que tu rencontreras aujourd'hui, de fait, n'aura... Ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que tu peux finir par te marier avec Mimi et que... Finir heureux et heureux... Enfin, non, je veux dire...
J'étais quand même pas
en,
là...
En dehors de la vanne, est-ce que c'est dur pour toi de te dire aujourd'hui que que tu dois faire le deuil de ça, justement ?
Par un moment, pour être très concret, j'ai enterré mon grand-père il y a un an. Et sur plein de niveaux, c'était un coup près. Mon grand-père était très très grand lecteur. Il avait une bibliothèque immense. Et même si ce que j'écris, je pense, ne lui aurait absolument pas parlé, j'aurais aimé qu'il voit ce livre. J'aurais aimé qu'il le lise, qu'il me dise que ça lui parle pas et qu'il comprend vraiment pas pourquoi j'avais ça. Mais c'est quelque chose qui n'est plus possible. Et ce grand-père avait rencontré ma petite amie de l'époque quelques mois avant son décès. Et sur le moment, je me suis dit, bon, au moins, elle aura rencontré mon grand-père, et il y a ça. Et bon, elle n'est plus là, et donc la prochaine, il n'y aura pas ça. Et donc, il y a des moments comme ça où ça me rattrape, et des moments où j'y pense pas, et je pense qu'une fois de retour dans le bonheur conjugal ou avoisinant, je me poserai peut-être pas ces questions en ces termes. Mais il y a des moments de vie comme ça qu'on vit parfois seul ou plus avec les personnes avec qui on était, et où tu te dis, bah, ça c'est fait. Une espèce de possibilité qui se ferme.
On peut dire que t'as un rapport assez complexe à la mort et au temps qui passe.
Sans déconner.
assez conflictuel.
Tu triches un peu là, parce que c'est comme tu le connais déjà.
Bah oui, mais bon, du coup, je peux guider l'interview, n'est-ce pas ?
La meuf a pas le temps, quoi.
Et donc du coup, la mort... Ah là, oui, putain.
C'est quoi ton rapport à la mort ?
En fait, je pense que c'est même plus au-delà de la mort. J'ai un rapport extrêmement compliqué à tout ce qui se termine. Et à tout ce qui est perte d'informations ou de mémoire ou de choses comme ça. Je sais que j'ai transvasé mes conversations MSN d'ordinateur en ordinateur depuis 20 ans maintenant. J'ai eu le malheur d'en rouvrir une fois et j'ai eu envie de me jeter par la fenêtre tout de suite. C'était terrible. Mais j'ai besoin de garder. Dans les autres choses que j'ai gardées, par exemple, j'ai supprimé des années d'archives de mon blog parce que je trouve que mes réflexions de vingtenaire n'étaient pas forcément pertinentes ni nécessaires.
Ton blog qui pourtant est très chouette, qui a été le point de départ d'une belle amitié entre nous deux.
C'est vrai.
Et car je t'ai connu grâce à ton blog.
Puis t'écrivais tous les jours aussi.
Tous les jours. J'ai en gros, je crois, 2000 articles, quelque chose comme ça. Et j'ai déréférencé 8 ans de blog. Mais j'ai tous les backups sur mon ordinateur. J'ai mes backups MSN, j'ai mes backups de blog. Quand je supprime des tweets, je les garde. C'est-à-dire que j'ai vraiment plusieurs archives Twitter de tout ce que j'ai supprimé. Et par exemple, sur tout ce qui est photos, je les ai en triple, mes photos. Je les ai sur mon ordinateur, je les ai dans un cloud et je les ai sur un second disque dur. Genre, je suis terrifié par tout ce qui est perte, même si c'est des choses que je consulte pas et que je reconsulterai sans doute jamais. Parfois, ça m'arrive de chercher une vieille note de blog ou un vieux truc. Mais le fait de plus avoir ça, ça me tétanise. Et du coup, ouais, je suis une espèce de hoarder numérique ou hoarder des souvenirs, je sais pas.
Oui, parce que j'ai pas l'impression que tu le fais beaucoup avec des objets tangibles, tu vois. J'ai pas l'impression que t'es très... tu vois, ton appart, il est pas non plus... Bon, il est pas grand, mais il déborde pas. Tu peux encore voir le sol et tout. J'ai l'impression que sur les objets physiques, il y a un rapport un peu plus détaché.
C'était pas le cas avant. Quand j'achetais des bandes dessinées, je les mettais sous blister. Et j'achetais des comics, je mettais sous blister, et puis je me disais, putain, les blisters, c'est quand même pas terrible parce qu'ils se plient. Et j'achetais du coup des dos en carton que je mettais derrière dans le blister. Donc en fait, genre pour un comic, il y avait un dos en carton derrière et un blister plastique. Donc c'était un coût, c'est-à-dire que vraiment la moitié du prix du comic, c'était de l'archivage, et ça prenait de la place. Et je pense qu'il y a eu un moment où j'ai réussi à lâcher prise en mode, à quoi bon ? Là j'ai encore donné deux sacs de vêtements le week-end dernier, donc j'arrive à me séparer de ça, mais ouais, non, je sais pas, il y a des choses, tout ce qui est conversationnel, tout ce qui est vraiment genre sorti de moi, j'ai tous mes vieux textes, tous mes vieux débuts de trucs, j'ai des vieux poèmes que j'envoyais aux meufs à 15 ans qui traînent encore sur mes disques durs, enfin genre si ça a trait à ma propre mémoire et ma propre existence, j'ai besoin de garder viscéralement.
T'étais quel genre d'ado à 15 ans quand tu pensais que être un homme ça veut dire sortir avec des belles filles, pas avec des filles, avec des très belles filles?
Alors, j'ai réécouté les différents podcasts qui m'avant, et je pense qu'il y a une anecdote qui est assez constitutive de à la fois mon rapport à la masculinité, mais aussi le rapport aux filles. À 15 ans, je m'étais mis en tête d'être un nice guy. Il y avait cette métaphore qui traînait pas mal sur Twitter et autres, que les nice guys, ils pensent que les fils des distributeurs, tu mets de la gentillesse dedans et il y a du sexe qui sort à la fin. Et moi, à 15 ans, j'étais persuadé que ça marchait comme ça. Parce que j'avais été conditionné par les médias et le discours qu'on me proposait même au sein de mes amis, à savoir les méchants garçons, c'est pas bien, les gentils garçons, c'est super.
On peut expliquer ce que c'est qu'un nice guy pour les gens qui savent
pas. Moi, je vais te dire... ce que c'était pour moi être un nice guy, c'est-à-dire essayer d'être le plus gentil, serviable et attentionné possible en toutes circonstances, au mépris de mes propres besoins et envies, en partant du principe qu'au bout d'un moment, la personne en face, au sujet de mon affection, aurait une illumination, et se dirait « putain, mais ce mec, il a fait tellement tous ses efforts, c'est obligé, je suis amoureuse de lui, quoi ». Et je pensais ça, tu vois, je me disais, putain, c'est genre le plan, les filles me disent, ça marche comme ça, toutes mes copines, elles me disent, les mecs méchants, on n'aime pas, c'est sûr, j'ai décodé le truc, quoi. Et ça marche.
Donc oui, parce que quand tu dis être le plus serviable et gentil et tout, c'est avec les filles.
Ouais, en tout cas, avec bah, pas avec les
filles. Spécialement.
En tout cas, disons que c'était ma méthodologie de séduction, c'est-à-dire d'être genre par une espèce de... d'accumulation de gentillesse.
Et avec les filles qui te plaisaient plutôt.
Oui, évidemment. Évidemment. Et en fait, j'ai eu une espèce d'épiphanie malencontreuse parce que j'étais à l'époque très à fond sur une camarade de classe. Et j'employais cette méthode et à un moment, elle est venue me voir. Elle a dit à une de ses copines de venir me voir. Elle me dit, Mathias, ce que tu fais, c'est quand même un peu gênant. Genre, tu la couves et tout. Et ce serait bien si tu... Enfin non, elle veut pas sortir avec toi, quoi. Et j'étais là genre, ah. Et j'ai eu un espèce de moment où genre, bah si elle s'en fout, moi je m'en fous. Et donc du coup... genre, je suis redevenu taquin, désagréable, pas genre méchant, mais quand elle venait me demander un truc et que j'avais pas envie de le faire, je le faisais pas.
Oui, et ce qui est pas, c'est ne pas être excessivement agréable.
Ouais, mais même, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où je me disais plus, y a plus de plan, c'est-à-dire que si jamais j'avais envie de le faire une vanne, je la faisais, quoi. Et je suis devenu une espèce de 180. Et deux semaines plus tard, elle commence à m'attraper la main dans la cour et je fais putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et elle finit par dire à ses copines de venir me dire, bah, Mélanie, il aimerait bien que tu viennes lui choper la bouche, quoi. Et j'étais là, genre, hein ? Et c'était vraiment genre. Et donc, du coup, là, il y a eu un espèce de blocage mental où je me dis, mais en fait. Ce qu'elles veulent toutes, c'est des connards, parce que j'étais un connard, et maintenant elle veut sortir avec moi. Et ça, ça aurait été genre la super vilain origine, genre si jamais j'avais pas compris le truc. Et en fait, il m'a fallu plusieurs mois après pour décoder.
Est-ce que t'as chopé la bouche de Mélanie?
Alors, une fois, et ensuite je suis redevenu nice guy direct. Parce que
oh non, t'as dérapé!
Non, parce que j'étais là genre, bah, genre. Ok, maintenant que c'est fait, je peux redevenir gentil. Et en fait, elle m'a dégagé au bout de 3 jours en mode, bah, tu me touches pas, t'es penaud, machin. En fait, elle voulait quelqu'un qui aille, enfin, l'attraper dans l'arrière-cour de l'école et lui faire des trucs un peu chelous, tu vois. Et moi, je suis là genre.
Est-ce que tu penses pas qu'elle voulait peut-être juste un mec qui sait ce qu'il veut, pas dans le sens.
Mais si, en fait.
Donc je le prends, tu vois, en mode chasseur-cueilleur, mais juste Bah, pas un mec qui s'écrase, tu vois. Bah, juste un mec qui est lui-même et
bah,
qui...
c'est ça. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'au début, je me suis dit, mais il faut être un connard. Et en fait, j'ai dit, bah non, en fait, il faut juste être genre moi et dire ce que je veux. Genre, tu vois, tout le monde te dit, sois toi-même. Et toi, pendant longtemps, tu penses qu'être toi-même, c'est être gentil. Mais en fait, être toi-même, c'est juste être toi. Enfin, c'est très bizarre, en fait, parce que c'est le conseil qu'on te donne tout le temps. Mais tu mets vraiment un moment avant de comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, être soi-même, c'est... bah, parfois pas avoir envie, parfois être grognon, parfois pas avoir le temps et dire ce qu'on veut concrètement. Et donc, du coup, ouais, à 15 ans, j'étais un S-gay et à 16 ans, j'étais là, genre, ah putain, c'est ça.
Tu parles beaucoup de l'influence des films.
Ouais.
À quel point ça t'a martelé la tête ? Comment t'as fait pour en sortir aussi, toi, de ton côté ? En dehors de cette expérience malheureuse.
En dehors de Mélanie.
Mais non, mais
qui ne sait pas ce qu'elle veut.
C'est pour le coup, c'était une super expérience. J'ai recroisé des années plus tard et on en a un peu reparlé. Alors, pas super intellectuellement parce qu'on avait 18-19 ans, mais. Et. Non, en fait, je pense que je me suis construit par la fiction déjà parce que j'ai un. Voilà, c'est ce que j'aime. Et c'est aussi que. En l'absence de discussion d'homme à homme sur comment on fait, etc., machin, on a tous ces trucs-là. Et tu vois. La fiction n'est pas réelle, elle te propose des clés qui sont pas forcément tenables en vrai, des situations qui n'existent pas vraiment. Et en fait, je pense que je me suis éduqué à la fiction, parce que c'est aussi ce vers quoi je tends professionnellement, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous raconte ce qu'on nous raconte. Est-ce qu'on peut apprécier un trope, donc c'est un trope, c'est-à-dire un cliché ou une structure narrative traditionnelle, tout en sachant que ça n'existe pas. Ce qui est d'ailleurs tout le tenant des comédies romantiques où tu sais que ce qui se passe n'est à la fois soit pas réel, soit extrêmement dérangeant, mais que t'apprécies à un niveau reptilien, genre « Ah ouais, ça marche, et je suis trop dedans !» Et puis après, tu vois, en même temps, quand tu réfléchis, le gars qui a escaladé sa clôture et tout, c'est chaud. Et donc du coup, je pense que ouais, j'ai eu cette espèce d'éducation à la fiction qui m'a permis de prendre un peu de recul là-dessus.
Comment ça, t'as eu cette éducation à la fiction ? Tu l'as cherchée ou tu l'as reçue ? Ou les deux ?
Un peu les deux, parce que genre, j'ai eu la chance de grandir aux années 90, qui est, je pense, l'âge d'or des teen comédies, où on a eu tous les American Pie, on a eu des trucs plus ou moins heureux. Et c'était à la fois pour nous une espèce de semi-éducation sexuelle pré-internet. Je vais pas dire
ne
pré-internet.
Mettez pas vos pénis dans des tartes aux pommes, s'il vous plaît.
C'est ça.
Le sucre et les muqueuses, c'est pas bon. Faites pas ça.
Non, mais il y a cette scène dans American Pie où il y a un des persos, le personnage le moins intéressant, qui va avoir son premier rapport sexuel et il est vraiment traumatisé. Son grand frère dit attends, j'ai trouvé un truc. Et il va à la bibliothèque et il y a un livre secret, qui est le livre sur comment bien faire l'amour. Et au-dedans, genre, il y a un tuto pour faire un cuni. Et le gars, il lit le truc et c'est genre waouh. Et après, il fait un cuni à sa meuf à la fin. La meuf fait genre waouh. Et tu sais, t'es là et tu regardes et tu dis mais il est où le livre, quoi? Genre, il y a quoi? Et c'est vraiment on se construisait par ça. On se posait vaguement des questions entre nous, les nuits de pleine lune, quand on arrivait à en parler. Et du coup, ouais, tu finis par naviguer un peu ça à la fois tes propres expériences, tu vois, parce que moi j'ai eu mes certitudes remises en place par ce que j'ai pu faire et les personnes que j'ai pu rencontrer. Indépendamment à ça, j'écrivais et j'essayais de comprendre pourquoi. Est-ce que telle histoire me plaît, telle histoire me plaît pas, comment ça fonctionne, est-ce qu'un cliché est forcément vrai et vice-versa. Et puis après, tu tombes dans TV Trope et t'en sors jamais. Mais
TV Trope, c'est le site qui référencie tous les clichés que tu sais pas qu'ils existent. Mais au bout d'un moment, tu te dis, c'est marrant, ça fait trois histoires que je lis où il y a le même truc. Et tu vas sur TV Trope et il dit, oui, c'était le truc, ça s'appelle comme ça. Et d'ailleurs, tu as plein d'autres trucs similaires et c'est comme Wikipédia, c'est un... un engrenage dont tu ne sors jamais parce que c'est très intéressant et que c'est très bien fait.
TV Trope, c'est une boîte de Lego. T'as littéralement toutes les pièces qui existent en fiction. Et si t'as besoin de comprendre, tu vas dans TV Trope. Et il y a une blague qui dit que si tu vas sur TV Trope, tu ressors pas avant plusieurs heures. Et c'est toujours ça. Je conseille, si vraiment vous voulez genre foutre en l'air une après-midi, cliquez sur un lien TV Trope.
T'avais pas de pote avec qui parler de tout ça, justement ? Que tu dis quand on en parlait un soir de pleine lune, machin, c'est ça.
Alors, masculin, pas vraiment. On parlait pas vraiment de nana, parce qu'on était un peu les bandes de cassos à la super grave, quoi. On était 4-5 mecs, on était là, genre, on sait où on va, on sait juste pas par où ça passe, genre, quel est le plan, on ne sait pas.
Donc, l'objectif, c'est une fille.
C'est pas forcément l'objectif, mais tu vois, l'espèce de côté, bah, on a un peu les hormones qui travaillent, on aimerait bien, genre, tenir quelqu'un par la main. À l'époque, ça suffit pour être complètement moite du bout des doigts.
Ouais, quand je dis une fille, je dis pas retourner une fille dans le garage à vélo et partir sans dire merci, mais juste
et, donc, une fille. Donc, en fait, le truc, c'est que je pouvais en parler avec mes potes, mais ils en savaient pas plus que moi, quoi. On n'était pas vraiment avancé. Il y avait une espèce de côté mise en commun de ce qu'on sait, mais quand ce que tu sais, c'est pas grand chose, tu vas pas bien loin. T'as les mecs autour de toi qui ont réussi à avoir une copine ou qui sont dans des trucs, bah, ils te disent pas, tu vois, ils sont cette espèce de côté mystique, genre non, je peux pas vraiment dire, c'est du tact, tu vois, c'est du doigté, tu peux pas. Et t'es là genre ok, mais ça m'aide pas, mec. Et je fais, quand t'auras l'âge, tu verras. Et t'as genre quoi, t'sais, hein. Et donc
mais
t'as
ils
ça.
Ont pas forcément tort en soi.
Alors ils ont pas forcément.
Est-ce que toi, si t'as un gamin de 15 ans qui vient te voir et qui te dit comment je fais pour avoir une copine, t'aurais genre
bah, je raconterai
une méthode.
Je raconterai l'histoire de Mélanie et je lui dirais d'arrêter de faire des fucking courbettes, quoi, et d'aller voir l'objet de son affection et lui dire écoute, j'aimerais vraiment qu'il se passe un truc entre nous, tu réfléchis, tu me dis et voilà. Mais et en fait, quand j'en parlais aux filles, elles te donnaient aussi leur version qui était. En fait, les gens te disent jamais 100% de ce qu'il faudrait. Et c'est pareil, pour moi, c'est un peu comme de la fiction, c'est que le discours que me tenaient mes amis filles de l'époque était plus proche d'un espèce d'idéal que d'un truc qui fonctionne vraiment. Et donc, on se retrouve. Parce qu'effectivement, quand une nana te dit je suis sorti avec machin, c'était trop un connard, moi, il me faut un mec gentil et machin, toi, tu passes en mode nice guy direct parce que tu vois, genre 1 plus 1 égale 2, tu vois, cette logique de jeu vidéo. Je veux un gars gentil, ok, super, bon, on va faire ça, quoi. Et
guess what, je suis un gars gentil.
C'est ça. Et du coup, en fait, on s'est débrouillé comme on pouvait et c'était surtout ça.
Et t'en parlais pas avec ton père?
Alors, absolument pas. Quel non-sujet.
J'ai le même, je sais.
Quel long sujet. Non, parce que déjà, j'avais peur de mon père. Pas peur dans le genre chelou, violent, etc. Mais c'était plus une espèce d'intimidation totale. On parlait pas de ça. Et puis, je voulais pas en parler à ma mère non plus. Il y avait vraiment un espèce de côté genre. Genre c'est mon truc à gérer moi-même, tu vois, un espèce de je suis vraiment pas allé chercher de l'aide côté parents, mais après c'est peut-être ma famille comme ça, genre mon frère m'a jamais posé la moindre question sur les nanas, quoi, à part il y a 2 semaines où il m'a dit Mathias, est-ce que Tinder ça marche, j'étais là genre tu sais, tu réponds quoi, bah ça dépend, voilà, paille.
Il a quel âge?
Mon frère a 29 ans.
Ok,
donc on a 3 ans et demi d'écart. Je suis plus grand, je suis plus vieux, non, parce qu'il est plus grand, mais je suis plus vieux.
Parlant de ça, tu es un vétéran de mes podcasts, puisque tu étais dans un de mes tout premiers podcasts qui s'appelait Les Mimissions, car j'adore les jeux de mots, et qui...
Quel talent.
Un icon.
Oui, bon. Et qui déjà, à l'époque, pionnière que j'étais, parlait des complexes masculins.
Ouais.
Donc tu étais venu en compagnie de Lucien Mène, qui est aussi venu dans Boys Club, et de Nicolas Bernot, qui n'est pas encore venu dans Boys Club.
Tout ceci est très incestueux.
Oui, c'est une grande famille. La famille des bruns barbus qui veulent parler d'eux, c'est un monde. Et donc, on avait parlé des complexes, et notamment de ta taille.
Ouais.
Puisque, comme on dit, pour un garçon, tu n'es pas très grand.
Non.
Tu mesures combien?
Alors, je mesure 1m69 selon les syndicats et 1m67 selon la police. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 2 pièces d'identité sur lesquelles je n'ai pas la même taille.
Est-ce que tu avais des talons?
Non, je pense que c'est une question de maintien. Pour des soucis de santé, j'ai une jambe qui est plus courte que l'autre. Et vraiment, littéralement, suivant sur quelle jambe je me tiens, il y a entre 2 et 5 cm de différence.
Mais ils te mesurent vraiment quand tu fais ta carte d'identité?
Ouais.
Ok.
Ouais, ils te mettent contre le mur, règle, on y va.
Comme quand t'es petit, tu sais.
Ouais,
exactement. Je m'en souviens plus.
Donc, tu vois, j'ai mon passeport à refaire dans un an. On va peut-être ramener les grosses Timberland, tu vois.
Pour passer le 70.
Qu'est-ce que ça fait d'être un mec d'1m69? Je vais prendre le chiffre supérieur. Je vais arrondir au supérieur.
Alors, ça fait rien pendant 16-18 ans, parce que tu t'en rends pas compte. Donc, c'est super. C'est un complexe à retardement. Ça démarre que quand tout le monde continue à pousser et pas toi. Et de toute façon, ta mère te dit, c'est pas grave, tu vas les rattraper tous. À un moment, il y aura une espèce de poussée de croissance. Je vais dire, ok, fine. Puis à un moment, t'arrives à l'âge où dans les livres de bio, ça dit la croissance est finie. Et t'es là genre, ça va pas. Alors, très très concrètement, dans la réalité véritable, je me suis déjà fait tège après un super rencard parce que j'étais trop petit. J'ai passé une super soirée avec une super fille. On a marché sur les quais, on a bu du coca. Et on s'est raccompagné devant la porte et on s'est embrassé. J'étais sur la pointe des pieds, ce qui était très grande. Et le lendemain matin, je me suis réveillé. J'avais un texto qui avait été envoyé au milieu de la nuit qui était « T'es adorable, c'est super, j'ai passé une super soirée, mais la taille, je peux vraiment pas. » Point. Et donc ça, c'est quelque chose qui arrive dans la vie réelle. Et l'autre truc que tu réalises qu'à partir du moment où tu vas sur les apps de dating, c'est que peut-être l'exigence qui revient le plus facilement et sans complexe de la part du genre opposé, qui te disent pas moins de telle taille.
Genre c'est dans leur bio, c'est ça ?
C'est dans leur bio. C'est dans leur bio. C'est vraiment le seul truc qui est mis avec vraiment aucune honte, aucun complexe, nada. Tu vois, personne mettrait dans sa bio pas de gros ou pas de chauve ou machin. Tu le vois de temps en temps, mais c'est quand même extrêmement rare. Alors que la taille, c'est vraiment ultra prévalent. Et il y a cette espèce de truc où c'est un critère autorisé. Tu vois, c'est assez bizarre et donc du coup
d'autant plus que c'est un des rares trucs que tu peux vraiment pas changer, quoi.
Non, alors j'ai des potes qui mettent des talonnettes en gelée à l'intérieur de leurs chaussures, genre Sarkozy style, et on m'a conseillé ça. Genre j'ai des mecs qui me disent, putain Mathias, regarde, j'ai ça et tout. Le mec, il enlève sa chaussure et il te montre, il a un truc en alors là je mime un espèce de caoutchouc avec mes deux doigts, et il me fait, tu vois, j'arrive à choper 2-3 cm comme ça, en plus avec des bonnes derbies 3-4 cm, je prends quasiment 10 et tout. Et j'étais genre waouh, et je me suis dit mais j'ai hésité à un moment, j'étais sur Amazon, le doigt sur le bouton commander, je me dis mais est-ce que si je rentre dans ce truc là, genre est-ce que c'est pas un espèce de trou du lapin de l'enfer? Et donc je peux aller jusqu'au talonnette et advienne que pourra.
Et est-ce que t'aurais préféré que la fille, elle te dise pas que c'était ta taille le souci ?
Non, parce qu'au final, je préfère quand les gens sont honnêtes et ça nous a pas empêché de continuer à avoir des conversations sporadiquement par la suite. C'est juste que je pense que sur d'autres critères physiques, elle l'aurait pas dit en frontal, ou elle aurait trouvé une autre façon de. Mais après, j'ai aussi eu des aventures avec des filles très très grandes, donc.
Oui, parce que toi, ça, c'est pas un blocage pour toi, le fait que les filles soient parfois beaucoup plus grandes que toi?
Non, aucun. Limite, j'aime bien. Je trouve que les physicalités différentes de la mienne sont toujours intéressantes. Je suis là, genre, quel est cet être vivant qui n'est pas du tout composé comme moi? Ça me fascine. Et donc, ouais, quelqu'un de très grand, j'aime bien.
Et à ton avis, pourquoi les filles ont pas honte? Ou en tout cas, ne recule pas devant le fait de mettre sur leur truc Tinder pas moins de telle taille, ou alors de t'envoyer dans la gueule « Désolé, t'es trop petit, quoi. »
Je sais. Alors, je pense qu'il y a le côté un peu irrémédiable du truc, tu vois. À la limite, un mec qui est un peu chubby, tu te dis « Peut-être qu'il y a moi, tu vois, commencer à le mettre au sport, je sais pas quoi. »
Ce que je veux dire, c'est juste...
Déjà, c'est irrémédiable, et ensuite, je pense que c'est... C'est pas vu comme vexant, ou en tout cas comme pas assez vexant, ou en tout cas c'est intégré comme un truc genre c'est un peu normal, tu vois. Genre, oui, à quoi tu t'attends, tu vois. Il y a une espèce de côté. C'est un truc que même dans ma très longue relation très chouette, normalisée, etc., je suis resté 10 ans avec une fille qui ne voulait pas mettre de talons en ma présence. Dans le cadre du couple, etc. J'ai réussi à avoir droit aux talons dans l'intimité, parce que je voulais voir. C'est très bizarre de se dire que. Tu sors avec quelqu'un, t'habites avec quelqu'un, et cette personne, quand elle va en soirée sans toi, elle porte des chaussures que tu ne verras jamais. C'est super bizarre. Genre, à un moment où ça te frappe intellectuellement, et je lui dis, bah écoute, est-ce que tu peux mettre des chaussures à la maison juste avec moi? Et on voit, quoi. Et donc, du coup, je lui ai demandé de mettre ses talons à la maison, elle a fait ok, et c'était une expérience intéressante, parce que bah, du coup, elle avait une taille différente, elle me regardait différemment. Mais ouais, il y a des... Même dans un...
Alors, pourquoi elle le faisait pas, en fait? Parce qu'elle voulait pas te gêner, tu penses, ou...
Non, parce que elle me le disait très frontalement, ça la mettait mal à l'aise d'être trop grande par rapport à moi. Elle se voyait pas avec un mec plus petit qu'elle. C'était vraiment très dit.
Il y a une affaire de statut chelou, en fait, d'avoir un... En tant que fille hétéro, d'avoir un mec grand et fort. Du coup... Si t'as un mec qui est plus petit que toi, ça... Alors moi, ça m'est jamais arrivé parce que je suis vraiment pas très grande, quoi. Mais ça pourrait. Il y a des garçons plus petits que moi. Et il y a un côté où ça inverse les rôles dans l'esprit des gens. et où d'un coup, on considère plus ton mec pareil que quand il est plus grand. Je sais pas si c'est clair, mais on le considère un peu comme d'un coup, on imagine que c'est toi qui portes la culotte ou tu vois des choses comme ça dans le couple. Alors c'est aussi con de se dire il est plus grand, donc c'est lui qui est un peu dominant, que de se dire il est plus petit, donc forcément il est un peu, il s'est un peu marché dessus, mais c'est une réalité. Après, je trouve ça dommage qu'en 10 ans, elle ait pas réussi à. Je peux comprendre qu'au tout début, tu vois, en plus vous étiez jeune et tout. T'es un peu plus dans le regard des autres et tout, mais c'est un peu dommage qu'en 10 ans, elle n'ait pas passé le cap de « Hey !» Et au pire, si j'envoyais tout le monde niquer leur race et que je portais les talons parce que j'aime bien et mon mec aime bien, tu vois.
Non, ça c'est pas...
Ça ne s'est pas fait.
Non.
Et c'est... En fait, on a beaucoup parlé de ton rapport aux filles, de c'est quoi de faire ta taille avec les filles, mais c'est quoi ton rapport aux autres mecs, notamment avec le fait qu'au bout d'un moment, ils ont tous poussé et pas toi, t'as arrêté plus vite.
Est-ce qu'au collège t'étais plus grand que...
Non, pas du tout. J'ai toujours été. En fait, j'ai suivi tout le monde et juste je me suis arrêté avant eux. Mm-hmm. Je me suis arrêté avant eux et mon rapport, tu veux dire physiquement par rapport aux autres garçons.
Bah, physiquement ou pas, hein, ce qui devient.
Bah, non, parce que c'est extrêmement vaste du coup. Enfin,
Alors, il n'y a aucune question précise dans ce podcast. C'est le concept.
C'est le concept. mon rapport aux autres garçons, je sais pas, j'ai eu des très très bons meilleurs amis à l'époque primaire, collège, on s'est un peu perdu de vue, j'ai eu d'autres potes au lycée, on s'est un peu perdu de vue, c'est un peu des cycles, mais un peu comme tout le monde. Certains avec qui on pouvait parler de masculinité, de filles, de choses comme ça, d'autres avec qui c'était, ma mère appelle ça les taiseux. Voilà, genre mon frère est un taiseux. Moi pas. Et du coup, bah, j'avais des amis taiseux et des amis moins taiseux. Et j'ai jamais. Il y a juste une ou deux fois où j'avais des amis par rapport aux qui. Qu'en fait, j'étais parfois très proche d'hommes qui correspondaient plus au canon de beauté que moi. Donc j'avais des espèces de complexes d'infériorité un peu mal digérés. Mais sinon, j'ai jamais vraiment trop eu de soucis. Après, je pense qu'il y a un sujet qui est peut-être un peu intéressant. Sur les autres hommes, c'est quand je me suis mis à faire de la boxe il y a quelques années et où je pense que j'ai jamais autant touché d'hommes qu'à la boxe, à la fois dans des rapports de violence parce qu'on se tape dessus, mais aussi des rapports de tendresse, puisque généralement quand un combat de boxe en amateur se passe bien, tu finis dans les bras l'un de l'autre avec un côté un peu épuisé. J'allais dire repu, mais on rentre dans un
le mais câlin viril.
C'est ça, et du coup je trouvais ça super intéressant en fait de pouvoir éprouver vraiment au sens tu fais l'épreuve du corps de quelqu'un d'autre, de est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est mou, quelle taille il fait, quelle taille tu fais par rapport à ce corps là. J'ai fait peut-être 100-150 séance de boxe, j'ai dû avoir une cinquantaine de partenaires différents, une dizaine de filles et 40 garçons. Je simplifie. Mais du coup, j'ai jamais été confronté à autant de corps différents, autant de corps d'hommes, avec leur odeur, leur mouvement et leur force contre moi aussi. Je trouve que c'était une expérience fascinante, qui me manque un peu depuis que j'ai plus le temps d'y aller.
Et pourquoi t'as arrêté le travail ?
Ouais, tu t'es rattrapé par la vie. C'est un peu j'ai fini le boulot hier à 10h du soir, donc j'étais là genre à quel moment tu fais de la boxe, mais c'est vraiment quelque chose, je pense que je me serais senti beaucoup mieux dans mon corps et dans ma masculinité et dans plein de choses si j'avais fait de la boxe beaucoup plus tôt. Je pense que si c'est un truc je pouvais remonter le temps, je dirais au moins de 15 ans, va te prendre des pains dans la gueule quoi, et vraiment ça construit.
comment
Déjà, mon corps a changé avec la boxe. Indépendamment du fait qu'effectivement, ça te permet de rentrer dans des canons de beauté qui sont un peu plus tradis, je commence à avoir des épaules et des bras que j'avais pas avant. Mes copines, quand elles me tapaient la bise, elles étaient là un peu à tripoter les biceps pour voir où ça en était. C'est un truc qui m'était pas arrivé pendant 25 ans. J'étais genre, qu'est-ce que vous faites ? Et tu rigoles parce que tu l'as fait.
À chaque fois que je te voyais pendant un an, j'étais là, oh là là, les épaules. Car je suis la pire personne.
Mais même au-delà de ça, en fait, d'avoir ce corps qui se développe, en fait, je commençais à sentir physiquement des muscles que je connaissais pas, à pouvoir contracter des choses que je pouvais pas contracter avant, et j'avais plus une conscience globale de moi-même. En fait, c'est comme genre sentir plus de choses sur comment t'es fait dedans et c'est aussi un exercice de retenue de ton propre corps, parce que à la boxe toute seconde d'inattention elle se paye, toute seconde de lâcher prise, en fait le moment où tu te dis j'en ai trop, parce que alors, c'est un exercice de frustration quand tu te prends quelques coups et tu te dis tiens j'en ai marre, je vais vraiment lui en mettre un et du coup je vais tout miser, et c'est la punition, elle est tout de suite quoi. Et donc du coup c'est vraiment un espèce d'instrument à la fois de se connaître soi-même, de modelage et aussi de contrôle de soi.
T'avais fait du sport avant ou c'était la première fois que t'en faisais
Un sport aussi rude, c'était la première fois.
Non, t'as nagé.
Alors j'ai nagé.
La piscine.
J'ai nagé, mais c'est pas
le
aussi.
Point piscine.
Alors là, tout le monde rigole, parce que je suis obsédé par la piscine.
Mathias est connu sur Twitter pour être un zinzin de la piscine, avec un classement des piscines de Paris, avec. Dès que tu vas dans une nouvelle ville, tu cherches les piscines de la ville, tu vas sur nageur.fr mettre tes stats, t'as des écouteurs sans fil Bluetooth, enfin t'es.
T'as fait des plusieurs posts sur tes.
Ah ouais, c'est.
Sur la piscine.
C'est. Non, je me suis mis à la piscine à l'époque où j'étais gros. c'est. Ça a été une échappatoire quand j'ai pris un peu de poids. C'était un moment où ça allait pas terrible. Non, pendant 20 ans, j'ai pas fait de sport, la question s'était pas posée. J'étais vraiment l'homme crevette, parce que j'ai encore des photos de moi jusqu'à 20-22 ans où littéralement alors j'avais des cuisses et un peu de cul parce que j'ai du roller, donc du coup tu vois, sur la partie sirène inversée j'étais au top, tu vois, c'était pas clair mais dans ma tête ça
six crevettes en haut et des jambes
ouais c'est
en
ça et en fait en haut j'avais pas d'épaule, j'avais pas de bras, j'avais un espèce de fond de ventre Nutella, tu vois, c'était même pas de chevilles, genre juste il y a un truc qui est physiquement là quoi, et ça avait posé de problème à personne. Pff, j'étais genre tout allait bien et non le sport c'est pareil, c'est partie des trucs que j'ai découvert trop tard, parce que en fait pendant 20 ans ma mère me dit quoi que tu fasses faut que t'ailles au sport, donc du coup j'ai fait genre 10 sports différents dans lesquels j'étais nul tous les ans pendant 10 ans, c'était la souffrance, c'est genre pourquoi on me fait faire ça, je comprends pas les mecs qui veulent ensuite mettre des pornos dans les vestiaires,
quoi
hein.
Alors, c'est un truc que mon frère a plus expérimenté. Mais, alors là je parle de quelque chose.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Parce que je ne sais pas, hein, qu'on soit extrêmement clair. Mais mon frère me racontait que lui, il a fait du hockey sur gazon pendant quelques années à Lyon. Et qu'il y avait une vraie camaraderie de vestiaire, un truc qu'on voit dans les séries américaines que j'ai jamais expérimenté parce que je fais que des sports individuels. Et la camaraderie de vestiaire, c'est se parler de meufs pendant que tout le monde est à poil sous les douches. Et c'est faire un peu des afters, surtout au pré-internet, en fait, où quelqu'un a réussi à graver un CD avec un porno. Du coup, viens, on va chez machin et on mate un petit porno et tout machin. J'ai jamais vécu ces trucs-là, mais mon frangin me racontait ça. Je sais que lui, son éducation sexuelle, elle est passée par là. Mais bon, moi, le sport, ça a été genre une souffrance pendant 10 ans. Donc, dès que le cours était fini, déjà, j'étais nul, donc personne ne voulait traîner avec moi. C'est genre, ok, Mathias, bon dernier, super. Et moi, je voulais juste rentrer chez moi, lire des comics, quoi. Donc, vraiment, ça a été. Mais c'est comme tout dans la vie, c'est le sport. J'ai commencé à aimer quand c'est moi qui ai fait la démarche d'y aller, quoi.
J'aimerais parler d'une anecdote. Du coup, tu me diras si tu veux pas, comme ça je couperai ce moment au montage. Quand on a été voir The Mask You Live In ensemble,
ouais.
T'as raconté un truc et c'était intéressant. Est-ce que je peux parler de ça?
Ouais.
Ok. Donc, Mathias, je creuse dans le vivier qu'est notre relation pour faire ce podcast. Je suis très contente de recevoir un ami. J'ai déjà reçu mon mec en premier épisode, donc clairement, je triche. On avait été voir, il y a quelques années ensemble, le documentaire sur la masculinité The Mask You Live In,
ouais.
Qui est maintenant sur Netflix.
Ouais.
Et il est très bien, regardez-le, c'est vraiment fondateur,
oui.
Pour
oui.
Comprendre l'injonction, soit un homme. C'est un documentaire américain qui est vachement bien fait, et qui est une très bonne porte d'entrée sur le sujet. Mais à l'époque, il n'y avait pas Netflix, parce qu'il n'y a pas toujours eu Netflix. Et du coup, on a été à une projection associative à Paris de ce documentaire sur la masculinité, comme des gens éduqués que nous sommes. Et j'y suis allée avec toi et un autre ami. Il y avait je pense, moitié-moitié de mecs et de filles dans la salle. J'avais un peu peur qu'il y ait une majorité de filles, mais en fait, il y avait quand même des mecs qui étaient venus. Et je me souviens qu'après, t'as pris le micro, donc t'étais assez bouleversée, et t'as pris le micro pour raconter qu'en fait, toi... Donc, dans le film, il parle du premier « Soit un homme » qui arrive généralement dans l'enfance, du « Soit un homme pleure pas »,« Soit un homme aide ta mère »,« Soit un homme fait du foot ». Et toi, tu racontais que pour toi, il est arrivé plus tard, en fait, ce moment. Il est arrivé au moment où t'as dû rentrer dans une confrontation physique avec d'autres mecs.
Ouais, alors on est dans un... comment dénouer ce truc ? En fait, j'ai eu la chance d'être très protégé très longtemps parce que j'ai grandi dans le quartier un peu bobo hipster de Lyon, d'une mère assistante sociale ultra féministe qui m'a envoyé chez le psy dès 8 ans. Donc du coup j'ai jamais eu aucun problème à verbaliser mes sentiments, à expliquer ce qui n'allait pas, et j'ai grandi de manière assez gender neutral jusqu'à 4-5 ans, c'est-à-dire que j'avais commandé un camion de Barbie pour Noël, ma mère me l'a offert et je trouvais ça génial, et quand elle l'a vendu à 12 ans j'étais dégoûté. J'étais genre bah non, mon camion de Barbie ça me fout le seum quoi, il est vraiment trop bien, c'est comme un Mighty Max mais en grand. Et en fait, j'ai subi cette espèce d'injonction sur un homme à mon arrivée sur Internet, en fait, où j'ai été exposé à des personnes et des groupes qui n'étaient pas aussi bienveillantes que l'espèce de cocon dans lequel j'avais grandi et qui prenaient en fait mes épanchements numériques comme quelque chose de ridicule. Ce qui d'un certain point de vue pour certaines personnes l'est. C'est-à-dire, j'ai vraiment aucun doute sur le fait que ces gens-là me trouvaient ridicule, là où d'autres personnes me trouvent touchant. Et donc du coup c'est un peu l'avantage et le défaut d'Internet, c'est que ça élargit un peu ton audience, et ces personnes-là sont beaucoup moquées à un moment, et j'ai essayé de... alors j'ai très mal vécu la chose, qui est pour moi très concrètement du harcèlement, et j'ai essayé tous les recours disons intelligents possibles, c'est-à-dire que j'ai essayé d'en leur en parler directement, d'en parler à leurs amis pour qu'ils leur en parlent.
Oui, parce qu'en plus c'était des gens que tu connaissais, on n'était pas sur du
non, c'était
pas... des gens avec qui c'était facile, enfin c'était simple pour toi d'avoir un contact
qui était,
direct,
qui était identifiable.
Et puis surtout, ça, ce que tu dis pas, c'est que c'était souvent et très répété, c'est-à-dire que quand tu dis, tu passes juste en glissant, c'était du harcèlement, mais c'était un vrai truc, c'était pas juste une fois ou deux quoi.
Ah oui, non, c'était quelque chose d'extrêmement quotidien. ça n'existe pas extrêmement quotidien, c'est quotidien, ça ne l'est pas.
T'es auteur, non ?
Non, j'entends mon auditeur me coller un taquet, en fait. Et en fait, les seules choses qui ont calmé les ardeurs de ces personnes, ça a été la menace physique, qu'elle soit par le doxing, c'est-à-dire que j'ai dévoilé l'adresse de quelqu'un sur Internet en lui disant « Mais mec, je sais où t'habites, et vraiment, s'il faut être en bas de chez toi, et je serai en bas de chez toi. » Et j'ai attrapé un mec dans un bar par le col en disant viens on s'explique, ce qui est genre quelque chose de...
Un mec qui était un des mecs de la bande qui te...
Oui, évidemment, j'ai pas attrapé un mec random dans un bar.
Non mais je me dis, si t'es à bout, tu vois, il y a un mec qui te parle mal, tu peux te venger sur ce gars-là.
Et ce qui était terrible en fait, c'est que ça a marché en fait. C'est que genre j'étais là, genre waouh, 3 mois à me prendre la tête, à avoir mal au bide et à être terrifié d'ouvrir internet alors qu'il suffisait d'aller attendre les mecs en bas de chez eux, leur casser la gueule quoi. Et c'est horrible parce que, alors d'un côté, ça aurait été extrêmement simple. J'avais su ça du départ, j'aurais appelé 3 gars et ça aurait été plié. Mais ça montre qu'en fait, tu peux être aussi causant que tu veux, essayer d'être déconstruit, essayer de machin, etc. Le reste du monde ne fonctionne pas avec tes propres règles, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé le pire, c'est ça que j'ai trouvé le plus triste, c'est que les appels à la discussion, à l'empathie n'ont rien donné, alors que vraiment jouer le jeu de la masculinité, à savoir arriver à dire s'il faut se taper, on se tape, ça marche, et j'étais là genre tout ça pour ça, tu vois, genre vraiment j'ai passé 25 ans à essayer de m'élever au-dessus de la mêlée alors qu'en fait j'aurais dû prendre des cours de boxe plutôt quoi.
Et c'est, en fait tu dis ces personnes qui te harcelaient, mais c'était des mecs, c'était que des mecs, on a d'accord?
Ah oui, évidemment.
Non, parce que c'est intéressant que ce soit des mecs qui soient mal à l'aise par le fait qu'un mec parle ses sentiments sur internet de façon...
Oui, mais après, C'est quelque chose auquel j'ai toujours été habitué. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru que j'étais homosexuel à un moment. Alors que pour moi, j'étais juste quelqu'un qui parle de ce qu'il ressent. Et du coup, sans forcément subir un harcèlement homophobe ou machin, etc., je savais que par mon attitude et par certaines de mes réflexions, j'appuyais sur les boutons de certaines personnes. Et donc, j'étais parfois, ouais, dans cette espèce d'entre-deux, de mec qui parle de sentiments, de mec fragile. Voilà, on arrive sur le terme.
Le F-word.
le fameux.
Parce que fragile, c'est une des. Pour les hommes qui prennent à cœur une vision un petit peu traditionnelle de la virilité, fragile, c'est une insulte, quoi. C'est ouais. Peut-être une des pires insultes avec les insultes homophobes. C'est fragile, c'est le pire adjectif.
C'est ça.
Alors excusez-moi, mais j'étais pas avec vous à cette soirée. Et c'est quoi le rapport avec The Masculivine?
Bah c'est que dans The Masculivine, oui, il a raconté cette anecdote, d'accord. En fait. Parce que dans The Masculivine, le premier soir un homme, il vient dans l'enfance. Mathias l'a pas eu dans l'enfance parce que
ouais,
les
moi,
gens
ça,
de gauche.
Oui, c'est ça. car le gauchisme, n'est-ce pas?
L'islamo-bobo-gauchisme. Et c'est arrivé, du coup... C'est toi qui te l'ai dit tout seul quand tu t'es rendu compte que les manières douces, on va dire, et civilisées ne marchaient pas avec ces mecs-là, quoi.
Ok. J'ai reconnecté. Je suis un peu lent, mais... Wagons. Je me dis qu'il pète les gens.
Non, mais c'est bien parce que c'est dur de se rendre compte, comme on se connaît depuis des années, à quel point c'est obscur comme podcast. J'espère pas trop. Je pense pas trop. Est-ce que tu penses que ces mecs, ils étaient mal à l'aise parce... Enfin, est-ce que tu penses qu'il y avait du malaise derrière leur.
Ah ouais,
leur haine envers toi?
En partie, il y a. J'ai eu pendant des années le loisir de réfléchir à ça. En fait, j'avais discuté avec l'un d'entre eux qui me disait que ma sensibilité et ma volonté de raconter ce qui pouvait m'animer était en fait une tactique de baise. C'est-à-dire qu'en fait, la théorie, c'était que je faisais semblant d'être sensible pour mettre des nanas dans mon lit. Et que donc, du coup, ma malhonnêteté devait être punie.
Ces hommes-là qui étaient du coup investis d'une mission divine.
Qui savaient la vérité. Et en fait,
c'est un peu des chevaliers blancs finalement.
Ouais. Et en fait, c'est juste qu'il s'agissait de personnes pour qui mon comportement n'était pas décodable autrement que par la stratégie. C'est-à-dire cet homme ne peut pas dire ce qu'il dit ou faire ce qu'il fait si ce n'est pas par calcul. Et donc du coup, cet homme vit dans une espèce d'hypocrisie totale. Et,
il faut le dénoncer.
Il faut le dénoncer.
Ok.
c'est mon analyse du truc.
Oui, et puis c'est celle que le mec lui-même t'a donnée, quoi.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu leur... Est-ce que tu t'as re-eu... Enfin, le français. Est-ce que t'as eu de nouveau des contacts avec certains de ces mecs-là depuis... Enfin, en fait, c'était il y a plusieurs années, ce truc. C'était il y a 10 ans.
Non, c'est 5-6 ans.
5-6 ans.
Alors, il y en a qui sont qui ont une espèce d'illumination woke et qui maintenant tweetent féminisme toute la journée. Je trouve ça génial. Il y en a un ou deux qui ont fait une espèce de semi mea culpa. Pas à moi, mais un peu global. Et il y en a qui, je pense, n'ont jamais saisi la portée de ce à quoi ils participaient. Et notamment, l'homme qui organisait la soirée The Masculivine était quelqu'un qui était proche de ces mecs-là. Et qui qui était quelqu'un qui avait fait des... sans contribuer au harcèlement, il s'était fendu de quelques tweets pour se foutre de ma gueule, plus sur le côté meute.
Et donc, il contribuait au harcèlement.
Exactement. Quoi. Et ce mec-là, je pense, n'a pas fait le lien avec le fait que je sois dans la salle et qui j'étais. Je pense qu'il a complètement...
Donc, en fait, quand t'as raconté ton histoire, tu penses que lui, il s'est pas dit...
Non.
Ah, c'est le gars, le gars qui est sensible pour pécho.
À aucun moment. Parce que... Parce que ce mec-là, il a fait 3 tweets. C'est quoi 3 tweets il y a 6 ans, tu vois, dans la tête du mec?
Oui, bien sûr.
Qui maintenant est ultra actif et militant et gauchiste, etc. Et donc, je pense que si j'allais le confronter, on pourrait sûrement avoir une conversation très intéressante. C'était une soirée très bizarre, en fait. Une soirée organisée par un mec qui avait été odieux à une époque et modérée par des nanas. Dont on sentait un peu que le fait d'avoir une parole masculine dans ce truc-là était mine de rien pas ultra bienvenu. Et donc c'était vraiment une soirée étrange à plein de niveaux.
Comment ça pas bienvenu? Parce que je sais que plusieurs personnes avaient pris la parole, dont je pense pas que t'étais le seul mec, mais c'était clairement moins simple pour les mecs de prendre la parole que pour les meufs. Pas parce que on leur donnait pas le micro, mais spontanément il y avait moins de mains levées.
Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez. Je m'étais juré que j'avais pas parlé de ça. C'était une soirée qui était ouvertement organisée par un collectif féministe, dont certaines personnes que je connais, que je respecte et que j'admire à tous les niveaux. Et c'était très bizarre d'avoir du coup une soirée avec pour thème la masculinité, mais organisée par des femmes et qui du coup était peut-être pas hyper équipée à recevoir une parole masculine à ce moment-là. S'il y avait un espèce de côté genre on a ce docu, c'est super, on a cette espèce de recul intellectuel sur les garçons, et là soudain il y a un mec qui débarque, qui est au micro, qui a tout ce passif dont ils n'ont pas forcément conscience, qui a deux doigts de chialer, et je me rappelle avoir une réponse très sèche et détachée d'une nana qui n'était pas prête à ça. Et je pense que c'est effectivement quelque chose sur lequel on manque d'outils, qui est voilà, le féminisme va aller questionner les garçons sur leur masculinité, et du coup les garçons répondent mais après on fait quoi, quoi. Et alors c'est complètement un processus en cours, et je dis pas que j'ai les solutions, etc., mais je sentais qu'effectivement le dispositif était pas 100% préparé à ce que moi j'avais à l'intérieur qui était chamboulé et qui était venu dégueuler sur la scène comme ça à ce moment là
c'était il y a quelques années, non?
Ouais.
Bah, c'était avant Netflix, donc c'était, c'était il y a quelques années.
Oui, c'est ça.
Mais il n'y a pas beaucoup plus d'espace de parole masculine équipée, entre guillemets. Enfin, je suis une meuf qui fait un podcast sur la masculinité, tu vois, ça reste un sujet qui, pour l'instant, en France, est pas mal... j'ai pas envie de dire trusté, parce que trusté, il y a un peu un côté... on garde tout pour nous, mais qui est, pour l'instant, occupé et par des femmes qui sont motivées pour en parler. J'ai pas encore vu de mec lancer, en France encore une fois... lancer un podcast, un groupe sur le sujet, tu vois. Alors, il y a peut-être des groupes Facebook qui existent, des trucs comme ça, où je suis pas au courant, et si oui, dites-le moi, et c'est très cool, je promis, je viendrai pas gratter si vous voulez rester entre mecs. Mais même sans parler de soirées non mixtes entre mecs, mais juste, effectivement, il y a un... Et d'ailleurs, les personnes qui ont fait le documentaire The Masculine sont des femmes aussi, qui en avaient fait un aussi sur la féminité. Et en fait, il y a un côté un peu où, forcément, en tant que femme qui a toujours été une femme... Il y a un côté un peu sujet d'étude, tu vois, j'observe, ouais. J'apprends à comprendre, et qui est pas ce truc empathique que tu peux avoir avec une personne qui te parle, une femme qui me parle de harcèlement de rue, je vais pas dire waouh, t'en parles un petit peu brusquement parce que je sais que c'est hyper chiant, alors qu'un homme qui te raconte, bah, comme ce que t'as pu raconter à la soirée où effectivement t'étais, après la projection, t'étais assez assez chamboulé, quoi, bah en fait t'es pas, oui voilà c'est ça, tu fais merci. Et c'est tout. Tu sais pas quoi foutre en fait avec ce témoignage-là de mec, parce qu'il y en a tellement peu que c'est compliqué. Mais qu'est-ce que t'aurais aimé avoir comme réponse, toi ?
Je. En fait, j'attendais pas spécialement une réponse. C'était très. En fait, moi, j'ai lâché des choses que j'avais gardées. Et j'attendais pas une réponse type ou autre. Je sais pas ce que j'attendais, tu vois. Je pense que l'idéal aurait été ce que t'as fait toi, à savoir ce que t'as vomi sur scène, je l'ai pris entre mes mains et c'est un peu dégueu, mais je vois que c'est là. Et tu me tapes sur l'épaule, ensuite on va manger et faire autre chose, tu vois. Peut-être, genre, juste. Parfois, j'ai pas besoin de clé ou de réponse, j'ai juste besoin que tu dises ok, j'ai vu. Tu vois, c'est genre un ok vu, mais en gentil.
Oui.
Tu vois.
J'ai un sujet, tu le connais, c'est la bite. Du coup, comment va ta bite ?
Alors...
Car nous approchons de la fin de ce passionnant podcast.
Écoute, ça va. Ça va. Ça va.
C'était un long ça va.
Non, non, c'est... non, alors... en fait, ma bite et moi, on a mis les choses au clair assez rapidement. Pendant ma prime jeunesse, après genre quelques années de c'est chelou, genre comment fonctionnes-tu, que veux-tu, maintenant on s'entend plutôt bien, on est dans une relation stable et sereine, et globalement ma bite est de bons conseils. Je pense que si j'ai un truc à dire sur ma bite, c'est ça, c'est que mon sexe, et il sait les choses avant moi.
Quoi?
C'est
dis-moi tout.
Alors, j'ai un naturel... un naturel, non. J'essaye d'être quelqu'un d'assez bienveillant et de positif. Et parfois, j'ai un peu un côté jusqu'au boutiste, par exemple, dans mes relations. Genre, je veux que ça marche, etc. Et en fait, mon corps me dit des choses, même quand mon cerveau veut pas. Et c'est-à-dire que, par exemple, je suis sujet à l'impuissance quand ça va pas dans le couple. Et même quand moi, intellectuellement, je me dis, fais l'effort de, genre, tu peux passer une bonne soirée avec ta meuf et ça va être super. Et dans quelques semaines, tout ira bien. Mon corps est là, genre, non. Genre, mec, non. Et je peux pas forcer le truc. C'est vraiment. Alors, je sais qu'il y a des mecs qui peuvent, ils sont genre sur commande ou mécaniquement. Et quand je dis c'est ça, c'est que. Moi, je peux mentir à moi-même, mais mon sexe peut pas. Il est vraiment.
Tu peux pas mentir à ta bite.
En fait, ouais, c'est ça. Je peux pas lui dire fais le taf ou fais pas le taf. Et inversement, c'est-à-dire qu'il y a des. Ouais.
Mais c'est pas vraiment ta bite, c'est plutôt ton cerveau, non?
Ton
désolé de.
Mais non, parce que. En fait, c'est. Non, mais je sais pas, mon cerveau, c'est que, par exemple, mon cerveau veut qu'il se passe un truc et veut qu'on passe une bonne soirée et ne veut pas avoir cette conversation terrible que je repousse depuis quelques semaines. Et mon corps va dire non. Et genre vraiment non. Et donc,
on va pas te donner une activité là pour vous occuper.
Ouais, c'est ça, c'est genre, mais moi j'ai check out il y a longtemps, gars. Moi je sais que la relation elle est dead, ou je sais que ça va pas, ou je sais que machin. Et donc du coup, non, mon cerveau il essaie de forcer le truc et mon corps veut pas. Donc en fait, c'est pour ça que mon corps a toujours un temps d'avance sur moi, notamment en détecteur de soucis, tu vois. C'est un espèce de baromètre.
Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'entends un mec parler avec légèreté du fait que parfois il bande pas alors qu'il est avec une fille, et en parler même limite comme d'un truc positif de c'est un peu mon bad signal, tu vois, de si je bande pas
en fait vraiment pendant des années ça a été une espèce d'angoisse terrible, et j'étais là genre waouh. Et en fait j'en parle parce que dans la majorité du temps, genre, tout va très bien, il y a pas de souci. Et juste il y a des gens, enfin voilà, moi quand ça veut pas, ça veut pas, et généralement ça veut dire un truc, et j'ai mis longtemps avant d'accepter d'écouter ça et de pas forcer. Et justement, pour moi, c'est devenu avec le temps un signal intéressant. Mais dans 95% des cas, les gens savent pas qu'il y a ça parce que tout va bien.
Mais je pense, alors peut-être que je dis une connerie, mais je me dis que l'impuissance, c'est sans doute un truc qui est relativement peu physique, en fait.
Dans mon cas, c'est à 0%.
Voilà, c'est plutôt.
Ça se passe après, moi, je peux pas parler pour les autres, mais dans mon cas, c'est vraiment 100% dans la tête, quoi. Et c'est même pas dans la tête, c'est dans la tête que je contrôle pas. C'est genre, il y a aucun recours, quoi. Vraiment, on a tout essayé.
Ok, j'ai envie de faire un buddy movie entre toi et ta bite. Vous avez des réunions de crise dans les chiottes où t'es là, vas-y mec, putain, laisse-moi 10 minutes. Et lui, il est
mais
là,
non, mais par exemple, enfin, genre, j'ai cette image terrible qui vient à chaque fois parce que c'est quelque chose qui panique vachement ma partenaire. Tu vois, c'est pas genre, est-ce que c'est de ma faute, machin, etc. Et il y a cette espèce de truc parfois frénétique où la meuf se dit, bah, tu sais, toute la vie, on dit aux meufs, ouais, de toute façon, les mecs, c'est mécanique et tout. Et la nana, vraiment, limite, tu vois, elle crache entre les mains, elle fait, allez, on y va. Et j'ai l'impression de cette espèce de tondeuse à gazon qu'on essaie de démarrer. Et je suis là, genre, tout est extrêmement gênant et tu peux pas lui dire qu'il faut arrêter, que ça sert à rien parce qu'elle est déjà, genre, au bout de. Genre, j'essaye, quoi.
Décidé qu'elle allait le
faire. Tu vois, et tu peux pas dire, genre, let it go, tu vois, genre, reste sur ta planche, cool, y a pas de souce.
Cette rêve, putain.
Je sais pas pourquoi je suis allé jusque. Mais tu vois, mais c'est terrible, je reviens toujours à la fiction. Je reviens à mes films, je reviens à mes trucs. Mais non, ça arrive pas souvent, mais j'ai mis du temps à accepter que c'était un signal de quelque chose. Et maintenant, généralement, c'est toujours un plutôt bon signal. Enfin, pas pour la relation, mais pour ma compréhension de la relation.
Ok.
Merci pour cette contribution rare. Et,
oui, tout à fait.
Sur la bite dans le Boys Club, quoi.
Comment on redémarre? Est-ce qu'on tire sur la tondeuse à gazon?
On va redémarrer avec. On n'a plus que deux trucs. Ok. Le premier, donc le dernier, ce sera le modèle masculin. Ouais. Là, tu connais le deal. L'autre truc dont je voulais te parler, puisque tu as ton premier roman qui sort. Oh my god! Il s'appelle Objet trouvé. Il est trop bien. Je l'ai lu car je suis privilégiée et vraiment, il est très très bien. Et en fait, c'est un bouquin qui parle d'une certaine façon de masculinité.
Ouais.
Et c'est écrit sur la quatrième de couverture.
Ouais.
Et tu as dû te battre pour que ce soit écrit sur la quatrième de couverture.
Ouais, ça a été quelque chose de clivant avec mon éditeur. En fait, c'est un roman sur un homme qui se détache de ses apparats d'homme pour devenir quelque chose de plus neutre. Pas féminin, mais vraiment plus neutre. Et c'est vraiment un homme en déconstruction au sens total du terme. Pas juste genre je déconstruis, je suis woke, machin, mais c'est vraiment genre je ne suis plus ce qu'on attend de moi en tant qu'homme. Et pour moi, c'est un des thèmes du livre. Et comme on a un petit paragraphe sur la quatrième couverture où on parle des thèmes, j'ai dit ce serait bien qu'on mette masculinité. Et mon éditeur, Jean-Baptiste, c'était, si tu nous écoutes, m'a dit mais personne ne sait ce que ça veut dire, Mathias, masculinité. Genre, ça va parler aux gens, pas du tout. Et j'étais là, genre, ouais, mais pour moi, c'est important. Et il me fait, mais t'es sûr ? Je fais, ouais. Et du coup, on a fait un peu un ou deux allers-retours. Et finalement, on l'a mis, tu vois, c'est quoi un mot sur une quatrième couverture ? Mais pour moi, c'était intéressant parce que ça orientait un peu la lecture du texte. Et. Quand la quatrième couverture a été montrée sur internet, il y a une ou deux personnes qui me sont tombées dessus en disant ouais, encore un mec qui parle, ces trucs de mec et tout. Et c'est vraiment, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait c'était un mot qui était chargé, en fait, qui n'a pas le même sens pour personne. C'est-à-dire que pour moi ça veut dire quelque chose, pour mon éditeur ça veut dire autre chose, pour des personnes sur internet ça veut dire encore autre chose. Et je suis là, genre, quand un homme invoque le thème de la, de la masculinité, pour vendre son livre, parce que c'est ça, j'ai quand même envie que les gens le lisent, personne met la même chose dedans, et ça montre qu'on n'en parle pas, quoi. Et donc je pense qu'il y a des gens qui vont lire mon livre et qui vont s'attendre à un truc, qui sont c'est pas ça, d'autres qui vont dire c'est intéressant, d'autres et c'est vraiment je pense que tout le process de juste mettre ce mot à l'arrière de la couverture, à la réaction que ça a généré, et parfois les réactions qui m'ont un peu mis mal, genre je suis désolé qu'il m'ait entendu, c'est pas ce que je voulais dire. Je pense que du coup ça valait le coup de le mettre.
Mais c'est pas un peu pareil avec la féminité, tu penses? Alors, chacun y met un peu...
J'imagine, mais comme je suis moins confronté à l'usage du mot, disons que j'ai pas la même base de comparaison. C'est-à-dire que quand je dis le mot masculinité en tant qu'homme, j'y charge des choses. Et donc du coup je peux pas me positionner sur ce que les filles ressentent quand elles disent féminité, mais en tout cas moi c'est le seul feeling que j'ai sur ma partie.
Je pense pas que féminité c'est clivant. Ce qui est clivant c'est la définition qu'on en a, bien sûr. Mais tu vois, je pense que si une femme écrit son premier roman et qu'elle veut mettre à l'arrière une exploration de la féminité, son éditeur il va dire banco mon grand nom, mais ça va. Parce que je pense que c'est plutôt en fait ta situation, Mathias, c'est plutôt comparable à féminisme. Est-ce que je mets un livre féministe derrière mon roman? Ah mais attends, les gens ils vont croire que... Il va y avoir des gens qui vont juste dire ça et dire encore un livre de féminisme, machin.
De féminazie. Bien sûr.
Ou là pareil, encore un mec qui... Enfin moi j'ai... Du coup Mathias m'a envoyé le tweet de la personne qui disait encore un mec qui parle de sa masculinité, et j'étais là mais... Où ils sont tous les mecs
qui en parlent? Genre
comme si c'était... On n'en peut plus les gars. En fait les mecs qui parlent, il y en a beaucoup. Partout.
Mais les mecs qui parlent...
Notamment des mecs qui écrivent des romans, il y en a beaucoup aussi. Mais les mecs qui parlent de masculinité, de leur masculinité ou du thème en général.
Deux.
Eh ben ils sont pas bon. Mathias, et qu'ils revendiquent aussi.
Et Michel Houellebecq.
Et encore Michel Houellebecq, je pense qu'il met pas masculinité, tu vois, il met la place de l'homme. C'est un peu tradit quand même. Michel
Houellebecq. Il le met pas, mais en même temps. Mais en même temps, je trouve que. Alors on peut parler littérature deux minutes, mais l'extension de Manon la lutte, le premier livre de Houellebecq. Je pense que c'est le livre qui a préfiguré les incels et 4chan, etc., de tout. C'est un livre qui est publié, je crois, il y a quoi, 15-20 ans. Il y a des gens dans les commentaires, c'est pas ça.
On a que des gens gentils dans nos commentaires, oui. Mathias.
Non, mais en fait, j'ai un peu honte parce que, tu vois, en tant qu'auteur, je devrais savoir la date de publi...
De Houellebecq. De Houellebecq.
Mathias est névrosé, il a des idées de qu'est-ce qu'il faut faire quand on est auteur, et voilà.
En fait, fondamentalement, c'est un livre qui postule du fait que maintenant que la classe moyenne existe et que tout le monde a un frigo, la seule chose qui différencie les classes maintenant, c'est est-ce que tu kennes une meuf bonne ou pas. Et donc, du coup, c'est l'histoire d'un mec qui va prendre un mec un peu plus faible d'esprit et lui dire « Mais gars, tu niques pas des meufs bonnes, tu n'es pas un homme ». Et je pense que tu devrais te venger en tuant une meuf bonne, parce que c'est ta seule façon de réaffirmer ta domination masculine. Et donc, du coup, le mec, à la fin, est sur une plage, il voit une nana canon, il sort un couteau et il la plante. Voilà.
Spoiler Houellebecq, il y a 15-20 ans.
Désolé. Et c'est un livre qui, pour moi, il y a 90% des névroses masculines modernes dedans. Genre, tu lis ce truc-là et tu vois, genre, toutes les fusillades aux US, tu vois tous les forums ultra toxiques, etc. Et ça, c'était avant tout ça, quoi. Et alors, indépendamment de ce qu'on peut penser sur Houellebecq maintenant, genre, le mec avait capté un truc avant tout le monde et il l'a mis sur un bouquin et tu lis ça et tu piges tout. Et alors, c'est ok, c'est une vision horrible. Je pense même que le livre, en tout cas, de le Houellebecq de cette époque-là était plus critique sur son, sur ce type de discours. Il n'était pas encore crispé, radicalisé comme il peut l'être maintenant et qu'il y avait quand même une certaine condamnation de ses modes de pensée. Mais tout en disant, les gars, vraiment, il y a plein de mecs qui pensent ça. Et moi, j'ai lu ce truc-là à l'époque et je me suis retrouvé sur le cul. Non pas que je le pense, mais parce que je reconnaissais plein de potes dedans, je reconnaissais plein de conversations que j'avais eues et j'étais là genre « Waouh !» Et je pense que c'est un bouquin qu'on a loupé à l'époque, mais qui disait déjà tout.
Trop hâte de faire un boys club avec Michel Houellebecq.
Michel, si tu nous écoutes.
On peut pas cloper dans le bureau, Michel. Faudra vapoter. J'ai donc une dernière question pour toi, Mathias. Est-ce que tu as une idée d'homme réel ou fictif qui représente une vision de la masculinité positive à tes yeux ? Oui, car tu y réfléchis depuis si longtemps. Oui. Est-ce que tu as eu du mal à trouver en vrai ?
Alors j'ai eu un peu du mal à trouver parce que en fait j'ai essayé de trouver quelque chose d'un peu plus intelligent que juste un beau gosse sympa respectueux.
Tu connais Spider-Man ?
Je suis
un énorme fan de Spider-Man.
C'est vrai. C'est vrai.
Le plus gros fan de Spider-Man que je connais personnellement en France.
Et eh ben écoute.
Je me suis dit peut-être qu'il va dire Spider-Man.
Non, c'est pas Spider-Man. Alors, je peux en dire une et demie.
Tu peux en dire autant que tu veux.
Ok. Alors, une assez rapide. J'ai regardé une super vidéo qui montrait justement les teen comedies des années 90 et qui disait qu'American Pie était un film en fait ultra toxique. Notamment parce qu'il y a une scène où des mecs matent une meuf à poil par webcam, une espèce de cam non consentie, et que le film fonctionnait par une espèce de porn logic. C'est-à-dire que le mec rentre dans la pièce et la meuf elle est à poil, elle fait « Ah, tu m'as vu à poil, et bah du coup on va baiser ». Ce qui est genre, quand t'as 12 ans, t'es genre « Mais ouais, c'est comme ça que ça se passe, putain ». Et en fait, c'est ultra gênant avec le recul. Donc, c'est là où tu vois, genre, les tropes. Genre, le film est un bon film, mais est-ce un bon film ? J'ai fait des guillemets avec les doigts. Et à côté de ça, t'as un film qui est super grave, qui met en scène des énormes beaufs.
Des gros losers.
Ouais, des gros losers un peu beaufs, et qui jurent, qui disent des blagues sexistes toute la journée, etc. Et qui disent qu'ils veulent absolument serrer ces deux meufs. Et ils passent tout le film à essayer de le faire. Et en fait, quand arrive le moment, il y en a un des deux qui est avec la meuf de ses rêves, qui est complètement bourrée dans un lit, et qui veut absolument coucher avec lui. Et lui, il dit, mais en fait, t'es trop bourré, c'est chelou. Et elle fait, mais vas-y, pourquoi tu veux pas, machin. Il dit, non, vraiment, c'est chelou. Et finalement, il le fait pas, la meuf, elle vomit et tout. Et le lendemain, elle lui dit, bah, t'as bien fait de pas coucher avec moi à ce moment-là, c'était pas le bon moment, je veux bien qu'on sorte ensemble. Et t'es là, genre, ouah, genre le mec pendant 2 heures, il espère un truc, et quand il a moi, il y va pas parce que la meuf n'est pas en état de consentir et c'est pas terrible. Et t'es là, genre, ouah, premier mindfuck. Deuxième mindfuck, t'as le personnage qui est le petit gros, qui lui est à fond sur la meuf trop canon et persuadé qu'il arrivera jamais à la voir. S'il est pas en mode full nice guy, c'est-à-dire s'il ramène pas les bières à la soirée, c'est-à-dire son focus du film.
Parce que donc c'est aux États-Unis et ils ont pas l'âge d'acheter de l'alcool. Donc quand t'amènes de l'alcool, t'es un peu, enfin tu gagnes des points de popularité parce que t'es la personne qui permet à tout le monde de picoler.
Et finalement le mec après tellement de mésaventures, il est genre au bout de sa vie, il finit par dire à la meuf, je voulais ramener de l'alcool pour te pécho et tout. Il dit, mais tu pensais vraiment que ramener de l'alcool ça aiderait à le pécho? Et il fait, mais oui, mais c'est parce que ça marche comme ça. Il dit, mais t'es con en fait. Et il lui dit, tu sais quoi, genre, sober up et quand tu iras mieux, tu me demanderas de sortir avec moi et on verra. Et le lendemain, il lui dit, bah, tu veux bien? Il fait, bah ouais. Et t'étais là, genre, putain, en fait, il suffisait de. Hein. Et le troisième truc, c'est qu'après toutes ces aventures, les deux mecs rentrent bah, toujours puceaux chez eux parce que leurs plans n'ont pas marché, parce qu'ils ont justement soit été corrects, soit bah, ils ont eu l'épiphanie. Ils disent, mais pourquoi on se dit jamais qu'on s'aime, on est con? Et donc, ils se font un câlin, ils disent, on s'aime. Et t'es là, genre, ouah, c'est peut-être le teen movie qui a le pitch de départ le plus glauque, mais avec la vision la plus positive de la masculinité qu'on ait fait en teen movie, et j'ai pas vu mieux depuis. Si vous avez pas vu Super Grave, oui, Super Grave, ça m'a trop drôle. Et donc, mon Joker.
Ça, c'était la réponse rapide.
Ouais, non, en fait, la réponse rapide, ça va être, il faut voir Magic Mike 2.
Oui, ah, je t'aime tellement.
Il faut voir Magic Mike XXL, laisse-moi en parler, tu ne me prendras...
Je dis rien.
Tu ne dis rien.
Ne silencie pas Mathias, s'il te plaît.
S'il te plaît, c'est mon podcast, ok.
En vrai, j'avais aucune idée de qu'est-ce que t'allais répondre à cette question.
Alors, donc, j'ai beaucoup réfléchi, et en fait, Magic Mike 2, c'est le mieux. En fait, Magic Mike 1, c'est un film sur un mec qui fait du striptease, et sa meuf qui lui dit, t'es quand même un peu un bolos, un mec qui fait du striptease, et qui est en même temps en train de se faire arnaquer par son patron, qui est peut-être machin et tout. C'est une structure assez classique. Tu dis, bon, bah, c'est marrant parce qu'il y a Channing Tatum qui fait du strip, quoi. Et du coup, c'est cool. Et en même temps, il dit que faire du strip, c'est pas déshonorant quand t'es un mec. Et la meuf, elle a cette espèce d'épiphanie. Genre, c'est vrai, les mecs qui sont en string, ils sont cool aussi. Ok, super. Magic Mike 2, il n'y a pas de conflit. C'est juste 6-7 mecs qui arrivent doucement 35-40 balais. Leur vie, ça va pas. Et c'est vraiment genre, bah, ils ont tous des problèmes différents. Bah, j'ai pas de thunes, ou avec ma meuf, c'est compliqué, etc. Et ils se disent, bah, en fait, on va faire une dernière tournée de strip. Et ils partent ensemble faire un buddy movie entre mecs en slibar. Et ils se rappellent en fait à la fois, bah, c'est quoi l'amitié virile, pourquoi est-ce qu'ils ont jamais été aussi heureux que quand ils dansent. Ils finissent par avouer tous pourquoi ils vont mal. T'as vraiment tous les mecs qui pleurent à un moment ou à un autre dans le film en disant, bah ouais, genre je m'en sors pas financièrement, c'est la merde, ou genre bah avec mes mômes ça va pas, et ou genre bah moi je suis malade, etc. Ils ont vraiment tout le monde chiale, tout le monde en slip et tout le monde chiale. Et il y a cette espèce de truc où ils finissent par croiser Donald Glover à un moment, ils ont une réflexion sur pourquoi est-ce qu'ils sont strippers et pourquoi c'est bien. Ils disent parce qu'en fait on apporte genre de l'amour aux gens. Et il a vraiment cette espèce de côté genre je me mets en string et les meufs elles passent un bon moment et je suis un performer et je suis un entertainer et c'est génial. Et du coup c'est à la fois une célébration d'une masculinité différente, à savoir bah, je me mets en string avec de l'huile sur le corps et je me trémousse par terre et en fait bah, c'est cool. Et en même temps, il y a ce côté, ben, on est tous des gros fragiles, la vie c'est compliqué. Et t'es là, tu regardes ça et tu fais, ouah, c'est peut-être le film le plus bienveillant sur les hommes que j'ai jamais vu de ma vie. Et c'est qui est à la fois bienveillant sur les hommes, mais aussi dans le partage de ce que c'est que la masculinité auprès des femmes. Genre, voilà tout ce qu'on peut donner. C'est un film qui est d'une générosité incroyable. Il faut vraiment le voir, et il faut le voir plein de fois, et après, il faut le voir avec des gens qui n'ont pas vu.
Avec vos potes, mec.
Oui.
Et comme ça, après, vous en parlez et peut-être vous pleurez.
En slip.
Et je trouve que Magic Mike, c'est un très bon critère des. Des mecs qui veulent critiquer le féminisme mais qui n'ont pas trop creusé, c'est qu'ils disent oui, les féministes elles luttent contre l'objectification machin, mais elles disent rien sur Magic Mike. Et je suis là, en vrai, vous avez pas vu Magic Mike parce que c'est un truc de gonzesse, donc déjà c'est votre problème. Et si vous aviez vu Magic Mike, vous sauriez que c'est vraiment pas le point, enfin le propos du film, c'est pas il y a Channing Tatum qui est beau gosse en slip, c'est juste genre un décor pour que les gens aillent voir le film, quoi. Mais en vrai, c'est limite un film sur les classes sociales et.
C'est incroyable, c'est faux.
Et vraiment... Bourdieu. Et l'amitié virile.
Mais que le 2 ou le.
Non, le 1 aussi.
Le 1 aussi, mais le 1 a une structure plus traditionnelle de film, okay. avec un méchant, un couple qui marche pas, alors que le 2 est vraiment, c'est un buddy movie de mec en string.
Tu le vends bien.
J'espère. Moi, je veux juste que les gens, tu vois, ils me disent, putain, j'ai écouté ton podcast, j'ai vu Magic Mike, mais waouh. Un autre film chelou que je vous conseille, si jamais vous avez 1h15 à tuer, c'est Vincent n'a pas d'écailles. Et c'est l'histoire d'un mec qui est ouvrier dans le sud et qui a un super pouvoir, qui est que quand il est mouillé, il est ultra fort. Donc, c'est-à-dire que son kiff, c'est qu'il vit près d'un lac, parce que dans le lac, il peut, mais il fonce comme un hors-bord, quoi, dans le lac, et... il est ouvrier du bâtiment et quand il y a un truc trop lourd à porter, bah en fait il se vide un bidon de flotte sur la tête et il lève des trucs et un jour il va avouer son secret à une fille et c'est très simple, je pense que c'est le film super-héros le plus low-key que vous verrez jamais de votre vie. Low-key genre pas low-key de Marvel, mais genre c'est calme.
Il n'y a pas des enjeux, il n'y a pas New York qui explose.
Non, le seul enjeu c'est qu'il ne faut pas que les gens ils découvrent que j'ai un pouvoir parce qu'après ils me regarderont mal. Voilà, mais s'il y a de l'eau et des hommes, n'hésitez pas à m'envoyer...
Ah, tu vas avoir tellement de DM. Truc chelou en DM. Non, mettez dans les commentaires vos productions culturelles préférées sur la masculinité et ou les hommes avec de l'eau. Comme la pluie, ça marche.
La pluie, ça marche. La pluie,
vraiment,
ça compte.
Vraiment tout type d'humidité. Et là, ça va devenir chelou. Mettez-le dans les commentaires. Et Mathias se fera un plaisir d'aller prendre des notes et de vous donner ses avis. I guess. Je m'engage pour toi. Merci beaucoup, Mathias.
Merci.
D'être venu dans The Boys Club, ce fut un plaisir.
Merci à vous.
Et donc, si vous voulez lire un roman, un premier roman d'un auteur prometteur sur la masculinité, entre autres, Objet Trouvé sort aux éditions Anne Carrière le 24 août, et il est vachement bien, donc demandez-le à votre libraire. Comme si on était en 1992.
Mais oui, mais c'est super. Tu peux sortir de chez toi et tu dis, je voudrais un livre, Tavernier. Et là, le libraire dit, mais j'ai, et il sort du comptoir et tout. C'est une expérience... très analogique, je conseille.
Merci Fab de co-animer The Boys Club avec moi.
Merci Mimi.
Quinzaine après quinzaine.
Écoutez, c'est toujours un plaisir.
On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de The Boys Club. Si vous avez écouté cet épisode sur YouTube, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Mais surtout, dites à Mathias quel est votre film préféré avec des hommes et de l'humidité. Si vous êtes sur une plateforme de podcast et que vous voulez soutenir The Boys Club, mettez donc 5 étoiles sur iTunes par exemple et lâchez un petit avis, comme ça le podcast sera mieux référencé et il vivra plus vieux et on ne mourra jamais. Et comme ça, on n'aura jamais à dire adieu aux choses et ce sera bien.
C'est super, je vais pouvoir sauvegarder ce MP3 pour toujours dans mes dossiers MSN.
Bisous. Prenez soin de vous.
Salut. Bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.